êtes bien sur Radio Orient, l'invité de Pluriel et le président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme. Bonjour, maître Patrick Baudouin.
Bonjour.
Vous avez présidé la Ligue des droits de l'homme. Vous êtes une figure de la justice pénale internationale. Tout d'abord, l'actualité immédiate en France, la Gironde, à feu et à cendre, hein, l'actualité marquée par ces incendies dévastateurs. Est-ce que l'État est à la hauteur aujourd'hui de son obligation de protéger les populations face aux conséquences du changement climatique? C'est aussi l'un des sujets sur lesquels vous intervenez, maître Patrick Baudouin.
Oui, bien sûr. Alors, la réponse est difficile. Je crois que la première observation qu'il convient de faire, c'est qu'on a beaucoup trop tardé à prendre en compte ce phénomène qui était pleinement prévisible. Moi, je me souviens d'années anciennes où j'étais étudiant dans le quartier latin. Il y avait un personnage assez original, on va dire, qui s'appelait Mouna et qui parcourait le quartier latin en disant déjà qu'il fallait se préoccuper des questions du climat, des questions d'environnement, des questions d'écologie, et tout le monde le prenait pour un fantaisiste, mais en réalité, il était précurseur. On se rapproche des années plus récentes, on voit très bien que le phénomène aurait dû être pris en compte depuis une vingtaine d'années, à bras-le-corps et non pas d'une façon aussi légère. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de faire face à des événements de cette nature? Bien sûr, il y a des moyens qui sont utilisés, on le voit. Il y a les pompiers du feu, comme on dit aujourd'hui, qui font un travail remarquable, mais ils le disent eux-mêmes, avec des moyens qui sont insuffisants, des moyens matériels, des moyens financiers, des moyens humains. Et puis surtout, il faut aller au-delà. Là, il s'agit simplement de la maison brûle et on a fermé les yeux, on essaye d'éteindre l'incendie.
Vous citez les fameux propos de Jacques Chirac, hein, « La maison brûle et nous regardons ailleurs ».
Oui, tout à fait, mais c'était bien vu. Malheureusement, comme souvent avec Jacques Chirac, il y avait une bonne analyse et pas forcément de bonnes mesures. Mais aujourd'hui, il faut vraiment prendre à bras-le-corps le problème et essayer d'éviter que la situation du dérèglement climatique ne s'accélère.
Oui, parce que la protection de l'environnement, c'est désormais une question de droits humains.
Oui, bien sûr. Ça fait partie des droits humains, inévitablement. Pourquoi ? Parce que ça conditionne la vie des individus. Et que si on laisse se dégrader l'environnement, eh bien, on aura des incidences sociales, financières, humaines, considérables. On le voit aujourd'hui. Regardez ce qui se passe, puisque vous évoquiez le feu en Gironde. C'est un désastre économique là, pour la saison estivale. Donc, ça va entraîner pour un certain nombre de personnes du chômage ou des pertes de recettes ou des conditions de vie totalement dégradées, des maisons brûlées et tous les problèmes de vie intime qui peuvent se trouver perturbés. Bien sûr que ça a des incidences, c'est un droit humain fondamental.
Avec une nouvelle fois les personnes les plus précaires qui sont les plus touchées.
C'est toujours le même problème. C'est-à-dire que quand vous avez effectivement de l'argent, vous arrivez toujours à trouver une solution. Et quand vous êtes démunis ou que vous avez des moyens beaucoup plus faibles, eh bien là, vous tombez tout de suite dans le besoin et voire dans une situation où vous allez péricliter, bien sûr.
Un tout autre sujet, maître Patrick Baudouin, les centres de rétention administrative. Le Conseil constitutionnel a validé la semaine dernière l'essentiel de la loi portée par le député Renaissance Charles Rodwell. Ce texte allonge la durée maximale de rétention administrative de certains étrangers jugés dangereux. Elle passe de 180 à 210 jours pour les étrangers condamnés pour terrorisme. Vous êtes opposé à ce texte. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Oui, bien sûr, opposé à ce texte. Alors, pour des raisons qui tiennent à la fois au respect des droits et des raisons tout simplement d'efficacité et de réalisme. Opposé parce que la rétention administrative, c'est une mesure administrative, comme ce nom l'indique, et donc une mesure qui potentiellement est ou risque d'être arbitraire. La garantie des droits, c'est une garantie judiciaire et une garantie par le juge judiciaire. Quand vous sortez le juge du terrain des mesures qui peuvent être prises, quelque part, vous prenez nécessairement des libertés et vous prenez des risques au niveau des droits et libertés. Deuxièmement, ça ne sert à rien parce que l'idée des centres de rétention administrative, c'était de dire on va prolonger ces durées de rétention pour les personnes qui sont en particulier susceptibles d'être expulsées, pour trouver des solutions pour pouvoir les expulser. Or, le problème, c'est qu'il faut des pays d'accueil, des pays qui peuvent accueillir ceux qu'on va chasser du territoire. Et quand il n'y a pas de solution, ce qui peut être le cas parce qu'aucun pays d'accueil ne peut accueillir ces personnes qui sont sous le coup donc d'expulsion, ça ne sert à rien. Donc que ce soit 90 jours, 180 jours ou 300 jours, on sera toujours dans la même situation, dans une impasse.
Avec le Parlement européen qui a voté en faveur de la mise en place de hubs de retour, en clair les migrants déboutés du droit d'asile qui seraient amenés à être expulsés dans des pays dans lesquels ils n'auraient aucun lien.
Oui, c'est ce qu'a fait la Grande-Bretagne, qui a été précurseur dans le domaine, avec le Rwanda, pour essayer justement de déporter, en quelque sorte, sur des pays avec lesquels les personnes qui y sont envoyées n'ont aucun lien d'attache, enfin d'une façon là aussi aussi arbitraire qu'inhumaine. C'est inacceptable.
Est-ce que vous constatez, Maître Patrick Baudouin, une régression des droits humains aujourd'hui, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, quand vous voyez le vote de ce type de texte par une partie de la droite, également par l'extrême droite?
Oui, je dirais qu'on est sur une régression des droits à l'échelle, malheureusement, planétaire. On va répondre à votre question sur l'Europe, on voit que dans les milieux européens, de l'Union européenne, ce sont les idées de l'extrême droite qui sont en train de, si ce n'est de prévaloir de manière directe, c'est-à-dire avec l'adoption de lois qui seraient issues directement de l'extrême droite, de manière un peu indirecte, plus insidieuse d'ailleurs, avec une droite qui jusque-là restait une droite républicaine, un peu tout de même hermétique aux idées de l'extrême droite, et qui maintenant se laisse complètement infiltrer par ces idées de l'extrême droite. Donc ce lien qui est en train de se faire de façon de plus en plus constante et de plus en plus vive entre droite et extrême droite, on le voit en France, c'est très très net avec la percée non seulement du RN mais de à la droite de Ciotti et quelques autres qui s'en rapprochent beaucoup, pour ne pas dire qu'il s'y inféode. Et effectivement, à l'échelle européenne, c'est aujourd'hui très perceptible, et notamment au niveau de ce qu'on appelle l'immigration, des droits des étrangers, où ce sont des mesures qui sont des mesures très attentatoires aux droits et libertés, alors que l'Union européenne, ça devait être au contraire un oasis de respect des droits de l'homme, sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme, etc.
Et toutes ces personnes ont été élues, les personnes qui ont voté pour ce texte. Est-ce que ce type de mesures répond aujourd'hui à une volonté populaire? Est-ce que le peuple aussi a changé?
C'est un phénomène dans toutes les dictatures. Quand on observe la prise de pouvoir par des dictateurs, elle se fait très très souvent par la voie des urnes. Je pense qu'il y a une sorte de symbiose entre les mouvements anti-liberté, on va dire, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche d'ailleurs, et puis une poussée de l'opinion publique déçue par les régimes démocratiques, il faut le dire, qui sont considérés comme n'ayant pas donné satisfaction, n'ayant pas pris suffisamment en compte les besoins réels des populations démunies, délaissées, d'où ce slogan contre les... C'est toujours comme ça, d'ailleurs, qu'on arrive à la montée de l'extrême droite au pouvoir, contre les élites. Il y a une part de vérité dans tout ça, mais c'est évidemment monté en épingle. Et puis, il y a cette petite musique qui se fait entendre en disant, puisque aujourd'hui, rien n'a vraiment marché, puisque vous êtes mécontent, puisque vous vous sentez déclassé, eh bien, essayez autre chose. Et cette autre chose, ça va être l'un des extrêmes, et en l'espèce, malheureusement, je pense plutôt l'extrême droite.
Vous dites, les dictateurs sont très souvent arrivés au pouvoir par les urnes. Aujourd'hui, pour le moment, il n'y a pas de chef d'État que l'on peut qualifier de dictateur au sein de l'Union européenne. C'est important de le préciser.
Bien sûr. Non, quand j'évoquais les dictatures, c'est pour dire que ce sont des phénomènes qui peuvent être comparables, pas forcément identiques. On l'a vu quand même en Hongrie. la Hongrie n'était pas une dictature, mais c'était devenu un régime illibéral revendiqué. C'est-à-dire que Viktor Orban ne contestait pas le fait qu'on dise « votre régime est un régime illibéral ». Non, au contraire, il disait « oui, oui, mais je le revendique parce que je pense que c'est le meilleur régime ». Et quand on est quand même sur une logique déjà illibérale, ça veut dire quoi illibérale dans le sens où on l'a employé par rapport à la Hongrie ? On est tiré d'affaire pour l'instant, mais ça peut ressurgir dans d'autres États, en particulier d'Europe de l'Est en Europe, peut-être même en Allemagne où il y a une poussée quand même d'extrême droite assez inquiétante. Ben, ça veut dire qu'on est contre l'État de droit. Et quand on commence à être contre l'État de droit, c'est-à-dire un État qui est basé sur le respect des principes de l'exécutif, le législatif, le judiciaire, des pouvoirs indépendants qui se contrôlent mutuellement, eh bien, et en particulier la remise en cause, on l'a très bien vu en Hongrie, de la justice, du pouvoir judiciaire, on peut glisser assez rapidement vers ce qu'on appelle effectivement une dictature.
Sachant que Viktor Orban a accepté sa défaite lors des dernières élections législatives et il a quitté le pouvoir comme cela se fait dans toutes les démocraties. C'est aussi important peut-être de le souligner. Sur l'actualité internationale, hein, vous êtes un expert de la justice pénale internationale. La situation dans la bande de Gaza, elle est moins mise en lumière ces derniers temps. C'est d'ailleurs un regret formulé par la ministre déléguée Éléonore Carrois en charge des affaires étrangères. 9 mois après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, l'espoir de vivre en sécurité semble s'éloigner pour les civils palestiniens. Pourquoi la justice pénale internationale semble-t-elle aujourd'hui impuissante face à cette situation? On a pu constater une perte d'influence. Alors là, il ne s'agit pas de la justice internationale, mais d'une grande institution, de l'ONU par exemple.
Effectivement, aujourd'hui, enfin tout au moins dans les semaines écoulées, on parle beaucoup moins de ce qui se passe à Gaza et surtout aujourd'hui en Cisjordanie. Et ça, c'est affligeant parce que ce qui s'y passe est très, très grave et c'est le summum des violations des droits humains. Ça, c'est vraiment le premier point. Et il est en deuxième point, c'est qu'il y a un lien très direct avec la question que vous posez par rapport à la Cour pénale internationale et plus largement à la justice internationale. Cette justice internationale, elle a beaucoup de mal à s'imposer. Il a été extrêmement difficile, vous le savez, de la mettre en place. C'était un vieux rêve à la Fédération internationale des droits humains. Il y a eu un congrès de 1933 qui demandait déjà la création d'une juridiction internationale. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a pensé qu'après Nuremberg, on pourrait mettre en place assez rapidement tout de même une juridiction internationale. Et puis il y a eu la guerre froide, il y a eu le mur de Berlin, il y a eu les deux blocs, et tout cela a été paralysé jusqu'au moment où on a enfin adopté, il a fallu le Rwanda, il a fallu l'ex-Yougoslavie, ces nouveaux massacres, ce génocide rwandais, pour qu'on crée la Cour pénale internationale avec le statut de Rome en 1998. Mais ça, l'enfantement s'est fait dans la douleur. Il y avait déjà beaucoup d'opposition. Les Américains étaient dès le départ très, très réticents. Finalement, tant bien que mal, la Cour pénale internationale a commencé à fonctionner. Les reproches lui ont été faits constamment. D'abord, on a dit c'est une juridiction qui ne juge que les responsables des pays du Sud. Après tout, moi j'ai toujours dit c'est insuffisant, mais s'il mérite d'être jugé, c'est déjà un progrès. Et puis, la justice a évolué, la CPI, et la CPI, s'est intéressée à d'autres pays qu'on va qualifier de pays du Nord. Ce qu'ont fait les Américains en Afghanistan, et puis plus récemment, bien sûr, ce qui s'est passé en Ukraine. Et enfin, je passe des étapes pour ne pas être trop long, ce qui s'est passé à Gaza. Et c'est la goutte d'eau, c'est plus qu'une goutte d'eau, qui a fait déborder le vase. Parce que là, on a vu très vite, à la suite des mandats d'arrêt qui ont été décernés contre Netanyahou et son ministre de l'époque, M. Galland, on a vu là une montée en puissance des attaques frontales contre la Cour pénale internationale. Attaques venant d'où? C'était prévisible, les États-Unis et évidemment Israël directement concernés. On ne s'était pas ému, tout le monde le dit, tout le monde le constate, de la même manière quand le procureur avait décerné un mandat d'arrêt international contre M. Poutine. Il y avait eu beaucoup moins de cris d'orfraie à l'époque. Mais là, soudain, la Cour pénale internationale a été parée vraiment de tous les maux, alors qu'en réalité, bon, c'est une juridiction récente, jeune, qui fonctionne avec difficulté, qui ne pouvait pas être parfaite dès le départ et qui avait tout de même beaucoup progressé avec encore un certain nombre de bémols et d'améliorations parfaitement nécessaires. Donc qu'il y ait des critiques, c'est une chose, justifiée parce que ça peut faire progresser, mais par contre de demander à démanteler, comme le dit aujourd'hui M. Rubio de l'administration Trump de Washington, c'est absolument scandaleux, c'est extrêmement dangereux et malheureusement, ça a l'air de fonctionner d'une manière relativement efficace puisqu'on voit déjà qu'à travers les pressions exercées sur un certain nombre de pays, et les Américains ont hélas beaucoup de moyens à ce niveau-là, il y a le Venezuela qui vient d'annoncer son retrait et je crains qu'il n'y ait d'autres pays qui procèdent de manière identique. Or, c'est fondamental que l'on conserve Cour pénale internationale. Et s'il n'y a pas un bras judiciaire pour dire « attention, vous violez de manière grave ces traités internationaux, vous commettez des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire des crimes de génocide, et s'il n'y a aucune poursuite, ben où est le frein ? Où sera la possibilité d'enrayer, de prévenir ?» C'est absolument nécessaire qu'il y ait cette épée de Damoclès qui pèse sur les responsables de ces crimes les plus abominables. C'était ça le constat qui a donné lieu à la création de la Cour pénale internationale.
Et ce bras judiciaire, il est tordu, si je puis dire, par les dirigeants de grandes puissances.
Oui, bien sûr. Ben, ça contrarie. Aujourd'hui, si vous voulez, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, on voit tous les dirigeants des pays qui sont susceptibles d'être poursuivis devant la Cour pénale internationale, vilipender cette Cour pénale internationale. Alors c'est M. Poutine, c'est la Chine de Xi Jinping, ce sont les États-Unis de M. Trump, c'est Israël de Netanyahou, c'est évidemment un certain nombre de pays du monde arabe qui n'ont jamais ratifié, d'ailleurs le statut de la Cour pénale internationale. Ce sont tous les pays qui se refusent à imaginer des poursuites contre leurs propres dirigeants, leurs propres militaires, leurs responsables. Et ça fait malheureusement du monde et de plus en plus de monde. C'est cela qui est inquiétant.
Merci beaucoup, Maître Patrick Baudouin. Vous êtes le président d'honneur de la Fédération internationale pour les droits humains, président d'honneur également de la Ligue des droits de l'homme que vous avez longtemps présidé. Un grand merci à vous, Maître.
Merci beaucoup. Je regrette de ne pas avoir pu être plus optimiste, mais c'est vrai que le moment n'est pas très propice. Alors espérons qu'après cette période néfaste, reviendront des jours plus heureux et un ciel plus clément.
Merci à vous, chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.